Merci à BBC Afrique pour cette page d'information. Cap maintenant sur une maraboutique en mode rencontre.
Africa.
La maraboutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Et à l'approche des grands départs en vacances, la maraboutique du Doyen Manu Dibango poursuit ses rencontres. Aujourd'hui, c'est le peintre plasticien ivoirien P.A. Jacques Soro qui va échanger avec nous. Pour rappel, c'est lui qui avait croqué pas Manu Dibango en petit garçon sur un support original, la toile de jute qui sert de sac pour les cacaoyers. Il a par ailleurs exposé ses œuvres à Paris au siège de l'UNESCO en mai 2019 dans le cadre de la Semaine africaine et sa notoriété ne cesse de grandir. Peut-être est-ce grâce à cette touche singulière qui compose ses œuvres. On y trouve de la couleur, du relief, notamment grâce à des objets qui sortent littéralement du cadre de la toile. Avant d'échanger avec ce fils sénoufo et d'entrer dans la carte blanche de cet homme, fier de ses origines corogolaises, un clin d'œil musical avec la musique de l'illustre Soro Ngana.
Oh, yeah, I'm in New York, baby, I'm in New York, baby.
Le terroir Senoufo s'invite dans la case du Don Amanoudi Bango avec la musique de Sorongana, un classique de la tradimodernité, pour accueillir notre invité, P.A. Jacques Soro, peintre plasticien, originaire de cette belle contrée d'Afrique située au nord de la terre d'Eburni. Bonjour Jacques, ou alors faudrait-il dire Foniana, hein, P.A.
Tout marche, Foyena ou bonjour, ça me va.
Et moi je dirais Fotamana.
Bah, aïe le moya.
Et pour la suite, on nous rendra à nos consultants. Parlons un peu de ta rencontre avec l'art, parce que cela a commencé très très tôt. Je crois que tu avais 8 ans.
Oui, très tôt, dans la ville de Korogo, comme vous venez de le mentionner. Et je dessinais sans pour autant avoir cette passion-là. Je le dessinais par plaisir et après... Le désir est venu de m'intéresser vraiment à l'art quand il y a eu la crise post-électorale, quand toutes les écoles étaient fermées au nord et qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit où aller apprendre. J'ai été obligé de faire le dessin. J'ai dit bien obligé parce que, ben, voilà, mon père ne voulait pas me voir flâner dans les rues de Korogo. Et c'est là qu'il m'a dit, mais écoute, avec ce que tu sais déjà faire, va au centre artistique, passer tes journées. Et peut-être que demain, tu deviendras quelqu'un avec ce que tu sauras faire. Et encouragé aussi par mon beau, monsieur Télémoreau Célestin, qui m'a d'abord appris à dessiner tout ça. Et donc, j'ai été m'inscrit dans ce centre artistique où j'ai passé 3 années de formation. Et après, j'ai eu un diplôme et j'ai commencé comme ça à dessiner un peu partout, surtout pour les églises, parce que mon père, il était catéchiste. Et c'est là que j'ai rencontré des sœurs, des religieuses qui m'ont dit, mais écoute, avec ce que tu sais faire, il faut retourner à l'école. Je dis, ben, j'ai quitté l'école il y a 3 ans. Et c'est comme ça, ils m'ont arrangé une place pour le collège catholique Marcelin Champagna à Korogo. Et c'est comme ça que j'ai repris les cours en 2006 au collège catholique Marcelin Champagna. Ça n'a pas été facile parce que j'ai dû reprendre une classe que j'avais déjà passée. Et ben, avec la volonté, je pense qu'on parvient à faire tout ce qu'on veut faire.
Aujourd'hui, tu as 33 ans, mais tu as gardé cet étonnement face à la création. Je me souviens, lorsque j'avais été voir ton exposition au Radisson Blu d'Abidjan, tu semblais parfois redécouvrir ton propre travail, alors qu'il n'y avait pas forcément de personnes qui passaient, même au moment où le public n'est pas là, quand tu termines justement cette journée. Il y avait une sorte de passage en revue, comme quelqu'un qui va saluer ou embrasser ses enfants avant d'aller dormir.
Oui, pour moi, chaque tableau que je fais, c'est comme un enfant. Et un célèbre peintre le disait, une toile, quand elle finit, elle est comme un miroir et chacun y voit selon sa sensibilité. Ce que je vois dans un tableau aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose que je verrai demain. Parce que c'est en fonction de mes émotions, de mon état d'esprit, que j'apprécie un tableau. Et voilà, il y a toujours un petit quelque chose de nouveau dans un tableau. Ce qui fait que, d'ailleurs, des gens sont prêts à mettre des millions, sinon des milliards de francs CFA pour l'acquisition d'une œuvre d'art. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans le tableau qui nous parle, quoi. Et l'art, au-delà de tout ce qu'elle peut avoir et de tout ce qu'il peut avoir comme valeur décorative, a aussi une valeur thérapeutique. Voilà, donc un tableau peut soigner, peut apaiser, peut aussi révolter, voilà, peut motiver aussi. Donc ça dépend de ce qu'on est face à ce qu'on voit.
Tu as dit apaiser, soigner. Dans ton cas, est-ce que ça a permis quelque part d'aplanir certains sentiments, une certaine colère? Tu as parlé de ce contexte qui était celui justement des troubles sociopolitiques en Côte d'Ivoire où tout était à l'arrêt. Est-ce que finalement un peu ce magma qu'on a dedans et puis cette révolte, cette colère, ce questionnement se manifeste? Et est-ce que pour toi justement ça a été, pour le dire en gros français, une catharsis?
Oui, je pour ceux qui ont mes toiles du début, mes débuts, quand je regarde mes travaux de 2002-2003, ma palette était un peu sombre quand même. Et forcément, cela a dû m'influencer. Et peu importe le sujet que je peins, mes couleurs n'ont pas d'éclat. Et voilà. Et
On l'a vu pour le Guernica de Picasso.
Voilà, c'est naturel au fait. L'artiste n'est pas en dehors de sa société. Il appartient à une société qui l'influence. Et cela se ressent bien dans son travail. Et pour ce qui est des peintres, c'est difficile de tricher. On ne peut pas tricher en peinture parce que c'est ce qu'on a en soi qu'on retranscrit sur une toile vierge. C'est comme une confession. Voilà. Et les couleurs qu'on met sur un tableau sont comme un reflet de ce que vit notre âme.
Et nous, on préfère ce confessionnal parce qu'on peut le voir et qu'il est moins austère que celui qu'on peut trouver dans les églises. Un clin d'œil, parce que nous sommes le dimanche sur la radio africaine. Quand on évoque P.A. Jacques Sauru, il nous vient tout de suite en tête ses œuvres avec du relief, avec des personnages dont les objets qu'ils tiennent ou encore des vêtements sortent du cadre, un balai, un foulard. Quel est ton objectif à ce moment-là, à travers cette démarche ?
En tant qu'individu, j'aime pas rester emprisonné. J'aime pas rester dans un seul endroit. Je n'arrive pas à m'épanouir quand je ne bouge pas. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'essayer d'affranchir mes personnages ou encore des objets que je dessine de la surface technique de mes supports. Et je dessinais comme ça et puis un jour je me dis, mais écoute, et si cette personne-là devenait plus proche de moi? Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer cette technique-là qui est comme un pont qui permet aux œuvres d'art et à nous qui sommes les spectateurs de ces œuvres d'art d'avoir comme un contact direct et une proximité avec ces tableaux-là.
Ça, c'est du spectateur ou alors de toi-même face à ces œuvres, mais il nous est arrivé, on a lu quelque part, qu'il y avait chez toi aussi, on a évoqué l'idée de libérer les sujets de ces œuvres, c'est-à-dire de les faire sortir du cadre de manière très matérielle. Il y avait une sorte de libération parce qu'on ne veut pas finalement que cette œuvre soit enfermée, et puis peut-être pour créer une osmose avec celui qui la regarde ou se l'approprie.
Si, tout à fait. C'est l'objectif final, parvenir à libérer les éléments, les différents éléments essentiels du tableau, de leur support technique, pour créer cet effet de liberté. Voilà, pour moi, il n'y a pas plus important que la liberté. Et l'art, c'est le domaine par excellence où se trouve la liberté et parvenir à créer cette impression-là dans mes tableaux. Je pense que ça serait quand même intéressant quand même.
Le relief aussi, la couleur qui sont très présents. Et tu le disais au départ, pour ceux qui regardent ou qui ont acquis tes premières œuvres, qui était beaucoup plus sombre et aujourd'hui on va vers quelque chose qui est beaucoup plus coloré avec ce que les gens appelleraient dans le jargon simple en fait des dégradés, mais il y a presque une évolution, il y a quelque chose de très lumineux quand on regarde aussi certaines œuvres, notamment quand on s'élève, il y a un sentiment d'élévation aussi.
Oui, ma technique c'est, je dirais pas améliorée, mais c'est enrichi avec le contact de certains maîtres aussi. Entre-temps, j'ai rencontré Monsieur Soro Pewé, qui est aussi un grand peintre.
Et... qui vient aussi de quelque part.
Oui. Et aussi, père son homme, le doyen James Soura. Oui, et voilà. Et à leur contact, j'ai appris. Et cela aussi a influencé ma palette. Et voilà, ça donne aujourd'hui ce que j'arrive à faire.
Tu as parlé justement de ces doyens. Il y a en tout cas aussi un thème, et on y reviendra tout à l'heure, le thème de la femme qui tient une très grande place, mais un fort attachement à tes valeurs, à ta famille, aux anciens et à la place de ce grand-père dont le souvenir est toujours très présent. Tu as parlé de ces maximes qui alimentent littéralement ton travail. Oui. Tu le cites même sur ta page Facebook. Quand on va fouiller, on trouve effectivement des phrases, comme disait mon grand-père. Exactement. C'est-à-dire qu'une sorte de maître qui peut-être lui-même n'était pas sur le versant plasticien, mais dont la parole nourrit ta création aujourd'hui.
Je vais peut-être vous dire quelque chose aujourd'hui en exclusivité. J'ai été la dernière personne à qui mon grand-père parlait avant de rendre l'âme. mes frères, mon père n'a cessé de me demander, mais qu'est-ce qu'il t'a dit tout ce temps? Et souvent pour me moquer d'eux, je dis bon, chaque jour je vous dirai l'une des phrases de mon grand-père, du grand-père, de ce qu'il a dit. Et c'est comme ça, souvent quand je pense à des proverbes, ce nous faut, parce qu'il était très sage, il parlait seulement qu'en proverbe, et pour tous ceux qui l'approchaient, retournaient avec la solution à leurs problèmes, pas qu'il leur donnait, mais qu'il les amenait à trouver eux-mêmes. Voilà, donc ma tradition influence beaucoup mon travail, parce que ayant grandi à Korogo, au contact de certaines réalités, et dans cette chaleur-là où un enfant n'appartient pas qu'à un père et une mère, un enfant, son éducation est communautaire, et j'ai appris beaucoup de choses. Et étant ici à Abidjan, j'ai remarqué que ces valeurs-là sont en train de disparaître. Et j'ai voulu réaliser un tableau que j'ai intitulé « Retour à nos valeurs ancestrales ». Et j'avais une phrase que j'ai demandé à mes amis de classe, étudiants, de m'aider à traduire dans leur propre dialecte. Et vous n'en reviendrez pas, mais mes amis étudiants n'ont pas réussi à traduire la phrase parce que ils ne parlaient pas leur langue maternelle. Et même des professeurs n'arrivaient pas à me traduire la phrase parce que eux aussi n'ont pas appris à parler leur langue maternelle. C'est dire que ces langues-là, si on y prend garde d'ici 20 ans, 30 ans, ben, il y a des langues qui seront plus parlées, quoi.
Alors Jacques, comme beaucoup de jeunes originaires du pays, c'est nous faux, tu es très attaché, on vient de l'entendre, à cette culture de tes pères avec un grand P. Je te demanderai pas si tu es un initié, parce que après c'est un autre débat. Mais par contre, tu revendiques clairement cet héritage, comme beaucoup d'autres. D'où te vient cet attachement viscéral que les personnes comme toi, comme maître Mamadou Chifou connaît, comme ton ami le photographe Soro Katiana Foa ou encore le brillant homme de culture Alexis Sekongo avait pour le terroir Sénoufo. C'est-à-dire que il y a presque quelque chose qui est dialectique, pour le dire en gros français, c'est-à-dire où on ne finit jamais. Et même entre vous d'ailleurs, originaire du terroir Sénoufo, il y a une fascination jeune, vieux. Je vais pas rentrer dans la case des secrets. Moi-même, peut-être étant d'un endroit où il y a des initiations. Mais qu'est-ce qui provoque ça? Est-ce que tu t'es déjà toi-même posé la question d'où vient cet attachement aussi fort, même quand on vit à New York, à Paris ou ailleurs?
Vous savez, Korogo signifie héritage. Et c'est un héritage que nous ont laissé nos grands-parents. Et peu importe ce que représente un héritage, c'est quelque chose d'une grande valeur dont il faut prendre soin. Et un sage disait comme ça qu'on ne peut exprimer mieux ses émotions que dans sa langue maternelle. Et chaque fois quand je peins, le son du balafon a comme un effet très fort, très 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 fort sur moi, sur ma personne. Quand je peins, que je n'arrive pas à écouter tous les tableaux que je peins, il y a du balafon dedans, il y a du Oum Sangaré dedans, il y a ces rythmes traditionnels qui guident ma création et qui me replongent dans mon enfance, dans les joies de mon enfance, dans les peines, dans les tout ce que j'ai vécu, voilà.
On va revenir justement avec P.A. Jacques Soro, qui est notre invité dans la Maraboutique et dans ses rencontres qu'affectionnait tant le Don Manou, qui doit être très fier de là où il est. Et on va écouter justement quelqu'un qui excelle au balafon. C'est devenu un véritable phénomène. Lorsqu'on dit qu'on est donatien, ça ne dit rien à tout le monde. Et lorsque l'on dit « Neko Bala », eh bien la toile s'enflamme. C'est quelqu'un qui reprend des grands succès grâce à cet instrument. Ça nous permettra de saluer au passage un autre Sénoufo Bontin, en la personne d'Éric Sekongo. Pour notre plus grand plaisir, on va écouter Neko Bala avec une reprise du célèbre tube de Zita Ninel, un morceau qui s'appelle Marcori Gasoil. Marc-Henri Gasoil de Nekobala, Africa Radio 91.1 FM en Abidjan, le fief de Diplo Bomaï Draymond Kuo et de Yacouba Kone qui nous écoute du côté de Marc-Henri avec ce morceau de Nekobala. On marque une pause dans la maraboutique du Don Manou et on revient dans un instant avec notre invité, P.A. Jacques Soro, plasticien, peintre de son état. Les trésors de Manu Dibango
sur Africa Radio.
Nous sommes de retour sur Africa Radio et dans notre maraboutique, nous recevons le peintre plasticien ivoirien P.A. Jacques Soro. Et juste avant la réclame, Jacques, on écoutait Nekobala. C'est un incroyable balafoniste qui fait pas mal de reprises, de différents succès au balafon. On a écouté le Marc-Henri Gasoil de Zitaninel ou encore le Bliwana d'Ernesto Djedje que François Richard nous glisse en tapis sonore. Ça aurait forcément plu au doyen Manu, qui était non seulement un amateur d'art, mais aussi collectionneur. Il avait été très touché par ce présent que lui avait offert d'ailleurs le premier magistrat de Cocody, le maire Jean-Marc Kiassé, un tableau réalisé sur une toile de jute par toi-même. Tu avais représenté le doyen Manu enfant dans cette œuvre, et c'est quelque chose qui l'avait beaucoup ému. Pourquoi l'avoir représenté enfant et pas pouvoir représenter Manu Dibango, l'icône telle qu'aujourd'hui tout le monde le connaît?
C'était l'âme de Manu Dibango que j'ai représenté. Il était, un doyen, mais il avait l'âme d'un enfant. Pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, d'échanger avec lui, et il souriait tout le temps, et il avait cette joie de vivre là. Il ne s'attardait pas sur les détails, sur ce qu'il n'avait pas réussi. Et voilà, c'est l'âme, c'est l'essentiel de Manu Dibango que j'ai gravé sur ce tableau.
Il avait également remarqué le détail de son nez. D'ailleurs, ça l'avait fait rigoler en disant « Ah oui, non, mais ça, c'est vraiment le nez. » Tu gardes quel souvenir de lui, justement, de Manu Dibango? C'est une question... Alors moi, je suis peut-être mal placé pour te poser cette question parce qu'il y en a tellement et puis finalement, il est toujours aussi présent. Mais tu gardes quel souvenir de la personne comme tu l'as dit, tu l'as vu, il a gardé cette âme d'enfant, mais la personne, l'artiste, la personne, enfin, c'est un ensemble.
Son sourire et son côté pragmatique. Voilà, c'est ces deux valeurs que je garde de lui, son sourire et son côté pragmatique. Voilà.
Et dans la playlist d'ailleurs musicale, parce qu'à la maison il y avait forcément du balafon et autres, il y a d'autres artistes qui ont un écho particulier lorsque tu étais enfant, c'est-à-dire des musiciens ou des artistes que tu regardais, hormis Sorongana évidemment. Mais est-ce qu'il y en a d'autres où tu dis « Ah non, mais voilà, depuis que j'étais jeune, celui-là m'a marqué, celui-là m'a influencé, celui-là je l'écoutais ».
Bien sûr, il y a Oumou Sangaré, il y a pas mal d'artistes, hein. Il y a Lucky Dube que j'écoute beaucoup. Et il y a aussi Alpha, surtout son album Masada. Et il y a pas mal d'artistes, en tout cas.
Pour revenir justement à tes débuts, au petit P.A. Jacques Soro, il y avait aussi les dessins animés. Hein, et tous ces héros que toi tu mettais dans toutes les situations avec ce qu'on appelait nous les fameux gribouillis. On a assez tapé des doigts parce qu'on gaspillait les feuilles et nos aînés d'ailleurs s'en souviennent. Quels étaient toi tes héros de prédilection? Parce que nous par exemple en étant jeunes, on aimait évidemment ce qui pouvait être des Marvel, mais on aimait aussi Raon, le fils des âges farouches, etc. Toi, quels étaient tes héros?
Les quatre tortues ninja.
Autre génération, là on est vraiment très bien très sûr. Loin.
Bien sûr, les quatre tortues ninja, et on s'amusait même à s'appeler Donatello, tout ça. Et il y avait aussi Robin des Bois, il y avait aussi, comment il s'appelait le footballeur là Oh, j'oublie son nom.
Dans les dessins animés?
Les dessins animés,
tu
oui.
Tu parles d'Olivier Tom? Parce qu'Olivier Tom, c'était aussi un carton. Hein. On a 10 ans ce matin.
Je me rappelle plus trop bien de son nom, mais je crois que c'était... il y avait Tizaré, le tir de l'aigle. Lui qui faisait le tir de l'aigle.
Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'ai autre temps, autre manière. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà franchi le lycée. Mais en tout cas, ils étaient très présents. Et déjà, tu t'appropriais ces personnages. Si. Tu faisais même presque... partie de la bande, un peu comme tout le monde. On a parlé de ce que du contexte dans lequel justement tu peins. Le contexte est nocturne chez toi, comme pour moi au niveau de la rédaction des conducteurs. alors que l'on sait qu'on a une émission à 7h du matin et que les maquilleuses grognent parce qu'il n'y a pas le beauty sleep et à des cernes. Pourquoi la nuit? Pourquoi ce rapport justement avec ce temps de la journée?
C'est bizarre parce que la nuit, je me sens plus apaisé. Je me sens plus en moi-même parce que la journée avec les bruits, tout ça. Quand je peins la journée, je suis obligé de mettre un casque pour me faire submerger de ces tonalités, de ces rythmes-là, et pour être déconnecté de la réalité.
C'est une double déconnexion, parce que la nuit, c'est déjà calme. On dit toujours la nuit quand la ville dort. Toi, tu te déconnectes encore avec le casque
non,
sur les oreilles.
Non, ça, c'est la journée. Le casque, ça, c'est la journée. Et la nuit, souvent, je mets juste de la musique douce voilà, pour peindre. Ou même sans casque pour pouvoir peindre.
Oui, alors justement, dans ce casque, nous, il nous est venu que dans le casque de P.A. Jacques Soro, il y a de la musique. Généralement, ce sont des chants en sénoufo qu'on entonne dans des messes, dans des veillées religieuses. Ça traduit un rapport, une dimension très spirituelle dans ton travail de plasticien et qui, j'ai l'impression, est aussi très présente au quotidien.
Oui, pour ceux qui m'ont déjà vu commencer une toile, quand je commence, souvent je chante le Notre Père en sénoufo.
Alors là, attendez, arrêt sur l'image, retour régie. Ça va faire plaisir à ma mère, ma Germaine, que j'embrasse, parce qu'on a Notre Père dans toutes les langues. Et sans distinction de confession, on salue les frères et sœurs d'autres confessions. Mais là, ce dimanche, avec une pensée très, 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 très forte pour mon doyen, qui était le frère d'ailleurs du 12 décembre de Pamanudi Bango, le doyen Laurent Donat Fologo, qui a attiré sa révérence. Ce Notre Père en sénoufo, là maintenant, tu nous ferais.
Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Amen.
Amen. Avec, je l'imagine, derrière et dans là, les maisons, ben justement, moi aussi, dans les hôtels d'État, pour ceux qui sont privés de liberté, dans les hôpitaux, dans leurs voitures, dans leurs villages ou ailleurs, énormément d'émotions pour ceux qui doivent t'entendre chanter dans cette langue et qui doivent se dire vraiment c'est exceptionnel. J'ai justement une pensée pour feu le papa d'Alexis Sekongo qui lui aussi a été rappelé à Dieu et on lui envoie d'ailleurs une grande pensée. Spiritualité dans les œuvres, spiritualité dans le rapport avec l'objet, avec au moment de commencer une toile, tout qui est présent devant toi. Cette démarche, je l'ai vue aussi, on évoquait le doyen Manudi Bango, quand on est à côté de lui, quand il ouvre, justement, voilà, son étui où il y a le saxophone, il y a le mouchoir, il y a tout ça. On va l'imaginer, justement, le faire, et on va le retrouver avec cet extrait d'un opus qui s'appelle B-Sides, les faces B, qui a été une réédition, et qui reste dans l'esprit balafonique, vibraphonique, et qui s'intitule Iron Woods. Thank you. Iron Woods de Manu Dibango sur Africa Radio 107.5 FM à Paris, où nous échangeons ce dimanche avec le peintre plasticien PA Jacques Soro. C'est un artiste brillant qui met des personnages ou des objets en scène. Il mélange les couleurs, il utilise parfois des carreaux, il se sert du relief pour parfaire des éléments qui se libèrent en trois dimensions. Et au final, des œuvres qui prennent vie, certains diraient comme par magie. C'est pas de la magie, parce que finalement, on pense une œuvre avant, pour tordre le cou à ceux qui disent, ben finalement, on n'est pas à New York, ou si on n'est pas au MoMA, on n'a pas fréquenté Warhol ou Basquiat, c'est qu'on connaît rien. Toi, tu as cité les doigts comme James Soura, les doigts comme les Kotobi et autres nous écoutent. Il y a une réflexion au départ, avant de se lancer sur une œuvre. Parce qu'il y a toujours une sorte de préjugé freestyle lorsqu'on parle des artistes du continent. Dis-moi, il s'est lancé, et ça permet d'ailleurs de faire une cotation plus basse des œuvres.
Non, une œuvre, à la base, elle est réfléchie. Et souvent même, le temps que prend la réflexion d'une œuvre est beaucoup plus que le temps que prend la réalisation matérielle de cette œuvre-là. Bon, je peux prendre 2 mois à penser une œuvre, comme la toile de la petite fille au ballet. Je l'ai pensée pendant plus d'un mois. Et même quand j'ai commencé la réalisation de l'œuvre, quand j'ai fini l'œuvre, le ballet ne sortait pas. Mais c'est après, quand je me suis assis, je l'ai imaginé, et trouvé un sens à ce ballet-là qui allait sortir. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça au bif. C'est des choses qu'on pense, parce que ça doit avoir un sens. Et c'est le propre même de l'artiste africain. L'artiste africain, naturellement, ne fait pas des choses comme ça. Il fait des choses pensées, il fait des choses usuelles, il fait des choses à caractère culturel et cultuel aussi. Et je veux dire que l'artiste africain, nord-africain, se différencie de l'artiste occidental dans ce sens. Parce qu'à la base, les artistes occidentaux réalisaient des œuvres pour la décoration.
Ou alors sur commande, par rapport à des rois, y compris les plus grands d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et l'artiste africain, il sculptait par exemple ses masques parce qu'il en avait besoin pour un culte, pour remplir une fonction. Donc quand l'artiste africain y crée, c'est pour que ça remplisse une fonction et non que ça serve simplement d'objet décoratif, quoi.
Culturel, cultuel, ouais. Ça c'est peut-être un sujet de réflexion pour Arsène Dali de quelque part, ou pour Armand Gauss qui nous écoute. Delors Inabo est en pleine promo joséique, je ne dis que ça en ce moment, il est très occupé. Et lorsque l'on parle justement de ce rapport culturel, cultuel au centre de notre culture, un élément, une personne magnifiée présente dans la plupart des œuvres de P.A. Jacques Soro, c'est la femme. La place des femmes dans ton œuvre, elle est solaire, elle est le socle de tout. C'est déjà un hommage permanent, d'ailleurs, à ces femmes qui sont dans ton cadre de vie, et évidemment, celles qui occupent une des premières places dans ton cœur. On parle toujours des mamans. Mais justement, cette place des femmes, pourquoi ?
La femme, c'est celle par qui tout part. Et celle vers qui tout part. Et celle auprès de qui tout finit. Voilà, pour dire que la femme ne peut être exclue de l'évolution de notre monde, de l'évolution même de nous en tant qu'individus. Un homme ne vient dans ce monde que par une femme, et il n'arrive à se reproduire que par l'aide d'une autre femme. Et voilà, tout est dans la femme. Et je pense que Dieu, en créant la femme, il n'a pas mal fait de nous endormir, parce qu'il a voulu garder ce secret-là pour lui seul. Et il y a quand même petit quelque chose que Dieu a mis dans la femme, comme un mystère. La femme, c'est comme un mystère pour moi. Voilà. Et je pense qu'on ne doit pas essayer de la comprendre. Il faut juste l'aimer comme elle est.
Elle sera toujours aussi présente de toute façon dans tes œuvres.
Bien sûr, bien sûr.
Ça l'a été également chez beaucoup d'autres peintres. D'ailleurs, elle a toujours occupé cette place. La dimension religieuse chez Léonard de Vinci, c'est une chose, on l'a vu. On l'a vu chez Picasso, on l'a vu chez beaucoup d'autres artistes de l'ère plus moderne. Il y a souvent aussi ce débat qui fait que pour la rue, qu'elle soit occidentale ou africaine, cette œuvre, on n'y comprend rien, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Qu'est-ce qu'il veut raconter ? Il y a toujours ce questionnement. Aujourd'hui, on te demande un peu partout, justement, Père Jacques Soro, là on parle du Festival d'Avignon quand même, il va y être question de dispenser des cours, de partager ton savoir. Est-ce que c'est une chose qu'il ne faudrait pas faire un peu plus en Afrique? Je sais qu'il y a le centre justement des arts techniques du côté de Bingerville ici, je salue Yapo et tous ceux qui y sont, il y a quelques écoles, mais est-ce qu'on n'est pas finalement un peu en manque de ça sur le continent? Et ça contribue peut-être à toujours cette distance qu'il y a entre les peintres, les plasticiens, toute cette dimension culturelle avec le grand public.
Je pense que petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place. Déjà, on avait la Biennale de Dakar. On a aussi la Biennale des Arts Naïfs d'Abidjan. Et petit à petit, parce que l'art ici, faut le dire, n'avait pas connu cet essor-là. Mais de plus en plus, on a des jeunes, on a de grands collectionneurs qui naissent un peu partout et qui s'intéressent un peu à tout ce qui est art, à tout ce qui est collection. Et cela ne peut qu'encourager. Pour ce qui est des grands festivals, aujourd'hui, on a une exposition ici même au sein de l'Hôtel Ivoire qui s'appelle Affaires 2021 avec Monsieur Olivier Pépé, qui a réussi à réunir 50 artistes quand même, c'est pas négligé, du continent africain. Et on a des artistes qui viennent du Cameroun, du Bénin, de l'Afrique du Sud, tout ça. Et c'est assez encourageant en fait pour nous les artistes. Et on a besoin de ce genre d'événements et qui soient solidement ancrés, préparés. Pour que voilà, nous les artistes on puisse avoir des places pour s'exprimer et aussi pourquoi pas vendre notre art.
Parce qu'il y a ces galeries, on avait vu au Camille Design où on a fait des choses à la deux, il y a évidemment les galeries comme celle justement de la grande sœur, de la galerie d'Envahie, on a parlé de plusieurs autres endroits, il y a des fondations comme la fondation BJKD qui essaye de défendre. On a vu justement également aussi le musée au niveau d'Abobo, le musée Adama Tongara, le musée d'art contemporain. Tout ça, ça montre qu'on avance. Le coup d'accélérateur, il doit de toute façon aussi être donné. Alors, être donné avec cette porte, et c'est un peu pareil dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'il faut triompher ailleurs pour revenir. Il y a les Aboudia et autres qui s'en plaignent tout le temps, en disant, mais il a fallu que j'aille à New York et qu'on me remarque pour que je revienne et que finalement, on me célèbre dans mon propre pays.
Et quand c'est comme ça, c'est encore plus difficile parce que la cotation qu'on a atteint permet seulement qu'à une infime partie de la population ici, qui est nantie, de pouvoir s'approprier nos œuvres. Parce que
c'est un peu partout pareil quand même.
Non, je veux dire, quand on connaît, on est célébré ici avant de s'exporter, et c'est pas la même chose. Mais quand on est obligé d'aller jusqu'en Europe, aux États-Unis, pour connaître une gloire et revenir ici, je veux dire, si par exemple aux États-Unis, je vends mon centimètre carré à je dis n'importe quoi, 300 francs CFA, si je reviens ici, je ne baisse pas le prix. Le prix est le même. Voilà. Mais je ne peux pas vendre mon centimètre carré à 300 francs aux États-Unis et venir le vendre ici à 100 francs. Ça n'a pas de sens. Pourtant, bon, quand je vais revenir ici, mes parents, mes amis diront, mais quand même, ça, c'est chez le bon, tu dois vendre ça comme ça, mais ici, il faut. Et c'est ce qui tue l'artiste.
Comprenez donc que les artistes doivent vivre de leur art et que leur art doit être respecté. Et si on donne 100 millions à une chanteuse, entre guillemets, aux formes très plantureuses, c'est qu'on peut parfois les mettre dans un tableau, sachant aussi qu'une œuvre est un investissement. Jacques Péassoro, question fera, pour le dire comme le taximan qui nous écoute et qui peut-être est en train de rouler vers la cité Concorde et PK18 à Abobo, l'œuvre la plus chère que tu aies vendue? Parce qu'on le dit bien pour les œuvres de Banksy, donc pourquoi pas pour les tiennes. Quelle est l'œuvre la plus chère? Quelle est l'œuvre, voilà, quel était le montant le plus élevé?
9 500 francs CFA.
Et on espère qu'il va être multiplié par 100 très bientôt.
Je l'espère aussi.
Il s'appelle P.A. Jacques Soreau, peintre plasticien. Il est avec nous ce dimanche dans les rencontres de la Maraboutique, dans la case du doyen Manu Dibango sur Africa Radio. Le calendrier en ce qui concerne Avignon, il y a déjà des dates puisque tout le monde sautille comme des cabris depuis quelques jours avec le déconfinement, la fin du couvre-feu en France. Les dates sont lesquelles ?
Fin juillet jusqu'à fin octobre. Mais bon, je m'apprête pour y être dans cette période-là, pour que, bon, comme ici j'enseigne à l'INSAC, Dieu merci, ça coïncide avec la période des vacances et ça me laisse le champ libre de profiter de mes vacances et voilà, de faire ce que j'aime le plus, voyager et découvrir. Et si je peux peindre dans ces circonstances-là, alors je suis gâté.
Nous, on a été gâtés en tout cas de t'avoir. On te dit encore bravo. On te dira aussi Fokena, Fokena, Folokena.
Fokena. Ça veut dire bravo, bravo. Voilà.
Merci pour ce génie créatif qui doit rendre le doyen Manu Dibango très fier de là où il est. Et nous, en tout cas, Jacques, toi et moi, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, il y avait une autre prononciation, et ça, je tenais à la faire. J'ai pris mon souffle, j'ai demandé à maître Mamadou Chifou Kone, grand pratiquant d'ailleurs de Wushu et qui est un grand maître. Oui. Il m'a dit, attention, Wapie Wachania Aba.
Wapie Changa Aba. Ça veut dire, on se revoit un autre jour à bas. Je veux dire, le Sunfo, avant j'étais Sunfo, comme ça, et quand j'ai fait mon initiation, j'ai compris que je n'étais pas encore Sunfo. Il me manquait quelque chose pour être Sunfo.
On en revient à cette fameuse initiation dans laquelle nous, on n'est pas du tout autorisés. En tout cas, c'est un grand merci à toi d'avoir été présent dans toutes ces particularités, singularités. Il faudra qu'on fasse d'ailleurs une incursion d'ailleurs en pays sénoufo, parce que c'est toujours très intéressant, parce qu'à un moment donné, c'était non, Wapie, vieux père, ça sent un Tiebara, et puis tu sais, après, il y a les gens qui sont originaires d'un peu partout, il y a des gens de Cinématiali qui vont dire Wabie, par exemple, Wabie, tout ça, ça change. Et c'est une salutation particulière à Papa Soro Nello, qui est vraiment une icône en termes de photographie, qui est aussi notre papa, qui est le papa de Soro Katsianafoa, qui était très présent. On va tous se transporter dans l'esprit des Balanisho, de Balako ou de Bamako d'ailleurs, avec un artiste qui s'appelle Adama Diabaté. C'est justement lui, un artiste sénoufo du Mali, qui à travers son instrument, qui a été fabriqué par les ateliers Baranuma, ça ne s'invente pas non plus, nous dit Nyanguya, c'est-à-dire, il parle de la jalousie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ça. Voilà, ça c'est le côté bambarafone et djoula qui me reste. Et c'est avec ce titre, donc Nyanguya, qu'on va te donner une partie de la route. Jacques, merci d'avoir été avec nous sur Africa Radio.
C'est moi qui vous remercie, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, de parler de son travail, de parler de soi-même, de parler de la vie.
Amen.
Amen.
C'est sur ces mélodies radiophoniques que nous clôturons cet entretien avec le peintre P.A. Jacques Soreau, mais également cette émission. Merci à François Richard qui l'a réalisée. On se retrouve la semaine prochaine, toujours 10h sur les 107.5 FM à Paris, 8h en temps universel. D'ici là, prenez soin de vous. Le doyen Manu depuis les étoiles et son Tito ici-bas vous disent... Mmh. Mmh.